Et c'est l'heure du LEM, la quotidienne de Transistor, du lundi au vendredi, avec aujourd'hui une filière bois encore en construction en Finistère.
LEM, l'émission, l'émission, sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans LEM, autrement dit le magazine, l'émission qui vous fait écouter les palpitations et les mutations du Finistère. Aujourd'hui, on retrouve les grands espaces des deux bassins versants principaux du territoire de la radio, le vaste bassin versant de l'Aulne et de l'Yerre qui comprend le territoire du parc d'Armorique et qui s'étend même jusqu'en Côte d'Armor du côté de Calac et de Carhaix. Ces eaux sont gérées par l'EPAGA. Et le bassin versant moins vaste, mais densément peuplé, de l'Élorne. Et ces deux établissements publics, l'EPAGA donc, et le syndicat de bassin versant de l'Élorne, sont représentés aujourd'hui respectivement par Nora Abo et François Cabaret, qui sont tous deux techniciens bocage. Eh oui, car le bocage, les haies qui entourent les parcelles agricoles, le bocage donc a plusieurs fonctions de régulation de l'eau, sa qualité, sa quantité, en plus de la biodiversité qui s'y abrite, de l'ombre, du fourrage pour le bétail. On a déjà fait plusieurs émissions là-dessus. Aujourd'hui, on s'intéresse à la dimension boisée du bocage, car ces haies, c'est du bois. Il faut les entretenir, il faut les tailler. Et ce petit bois, qu'est-ce qu'on en fait? C'est la question du jour. Bonjour.
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 Vous êtes invités tous les deux, EPAGA pour l'Aulne et l'Yerre et puis Bassin de l'Élorne, car vous allez mener ensemble un projet qui a pour nom le pacte en faveur de la haie. Alors qu'est-ce que c'est exactement?
Donc le pacte, c'est un appel à projet qui a été lancé par la DRAF, la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Bretagne, visant à faire émerger une structuration de filière bois sur notre territoire. Donc avec l'EPAGA, on a fait un consortium. Donc l'EPAGA, le syndicat de l'Élorne et Brest Métropole, qui va s'étaler sur 3 ans sur le territoire de l'Aulne et de l'Élorne, donc pour préciser les limites.
Ouais. Mais c'était volontaire enfin, il fallait absolument que ce soit ce territoire-là, enfin, qui est un minimum, c'est ça
En fait, on s'est construit sur un projet qu'on a en commun déjà, qui s'appelle TerraRad. Donc c'est un contrat de baie qui vise à améliorer la qualité de l'eau dans la rade de Brest. Et du coup, on va travailler sur les 2650 km² de nos territoires réunis.
Donc, voilà. Oui, Nora. Et après, bah, du coup, ça va financer notamment du temps de travail donc pour François et moi, pour accompagner les agriculteurs en fait, dans la gestion durable de leur bocage, réaliser des plans de gestion et aussi organiser des formations pour les agriculteurs, pour les élus, pour les agents. Et aussi, donc, si la filière se structure sur le territoire, peut-être proposer une ou deux plateformes de stockage de bois énergie sur notre territoire.
On va détailler tout ça, bien sûr. Mais ce pacte de la haie, il existe dans d'autres régions, j'imagine, d'autres territoires. Enfin,
ouais, ça a été un appel à projet régional, du coup. Donc, on a été 3, je crois, sur le territoire breton à être retenus. On a eu les résultats, là, au mois de novembre 2025.
Et c'est nouveau, enfin, ça n'a jamais existé avant.
Si, il y a eu, ouais. Il y a eu déjà l'année dernière. On ne sait pas si ça va être reproduit encore l'année prochaine, mais en tout cas cette année, enfin 2025, on avait été lauréat dessus. Ouais.
D'accord, oui. Et vous n'êtes pas allé voir d'autres régions pour vous inspirer avant de faire votre dossier
On a eu 3 semaines pour répondre à l'appel à projet, donc non, on a essayé de faire au plus rapide entre les deux structures pour nous coordonner. Quoi.
Ah oui, en effet. Bon, on vous félicite d'autant plus d'avoir remporté l'appel. Alors actuellement, le bois agricole, enfin ce qu'on appelle bois agricole, c'est le bois du bocage, on est d'accord, c'est ça? Enfin, est-ce qu'il peut y avoir d'autres provenances éventuellement
Oui, bah après il y a les boisements aussi. Enfin, les agriculteurs, ils ont aussi des petits boisement, donc ça peut aussi concerner ça. Mais nous, vraiment, sur le pacte de la haie, on va se recentrer vraiment sur les haies qui sont la principale source de bois pour les agriculteurs.
Et alors, comment est-ce qu'il est valorisé actuellement de ce que vous en savez sur vos territoires, vos bassins versants?
Alors, en fait, il y a eu des données qui ont été sorties avec le programme Brest Bocage en 2020. Donc, il faut savoir qu'il y a 33% du bocage qui est entretenu au lamier. Donc, le lamier, c'est vraiment l'entretien en gabarit, c'est ce qu'on voit en bord de route.
Donc c'est un gros engin, c'est ça?
C'est ça, c'est un gros engin mécanisé avec des grosses scies circulaires qui vont venir couper en fait, les arbres sans trop de distinction. Et ça va faire des coupes, en fait, qui vont laisser des branches qui vont mourir après sur l'arbre. Et après, le bois, il est pris et il est mis souvent dans les bouts de champs ou alors il est brûlé. En fait, il n'y a aucune valorisation du bois bocage entretenu au lamier sur le territoire et même à l'échelle nationale.
Et ça, c'est la majorité, le lamier
C'est ouais. ça.
Donc c'est pas que le bord des routes, quoi.
Alors, c'est ce qu'on voit souvent en bord de route, mais vraiment, les agriculteurs, c'est le moyen le plus utilisé pour gérer leur bocage sur leur parcelle.
Parce que c'est ce que proposent, j'imagine, les entreprises de travaux agricoles. Enfin...
Oui, c'est ça. C'est ce qui s'est développé, en fait, avec la mécanisation de l'agriculture. En fait, on en parlera après, mais maintenant, les fermes, elles ont de plus en plus, en fait, de linéaires de haies à entretenir parce que les fermes s'agrandissent et il y a de moins en moins de main d'œuvre. Du coup, il faut aller au plus rapide. Donc, c'est le lamier qui répond un peu à la commande, quoi. Et après, du coup, il y a aussi 40% du bocage breton qui est à l'abandon, qui est sans entretien. Donc, en fait, on a vraiment un vieillissement du bocage. Les arbres ne sont plus entretenus. Et on a seulement 20% du bocage breton qui est en gestion durable.
Alors, ça va être le sujet. Alors, quels sont, on l'a évoqué vite fait, mais c'est quoi les freins qui font que ce n'est pas valorisé, François ?
Aujourd'hui, il y a les freins sur la gestion du bocage. Donc, il y a déjà un manque de temps ou un frein humain. En fait, aujourd'hui, je ne vais pas vous le cacher. Hein. La gestion durable du bocage est principalement faite par les parents retraités ou par les enfants qui sont en études agricoles, qui font la gestion à la tronçonneuse pour faire du bois bûche et se faire un peu d'argent de poche, quoi. Donc, ça, c'est un frein, en fait, le temps. L'investissement aussi que ça peut représenter. Après, il y a un frein financier. Aujourd'hui, le bois est vu comme un déchet ou comme une contrainte sur les parcelles agricoles et il n'est pas valorisé à sa juste valeur. Donc voilà, pour vous donner un petit ordre d'idée, un bois en gestion durable en bord de champ donc, qui a été coupé par l'agriculteur, ça vaut 30 euros de la tonne. Et aujourd'hui, on prend ça pour un déchet, donc c'est pas du tout payé ce prix-là. Quoi.
Oui. Et on a calculé combien il faudrait qu'il soit évalué pour que ça soit intéressant. À partir de quel seuil, quel tarif, ça serait intéressant.
À 30 euros hein, déjà, 30 ouais. euros de la tonne,
c'est bien.
C'est bien.
Ouais.
Aujourd'hui, je sais pas exactement à combien on est sur le territoire, ce qui est acheté par les très grosses entreprises de gestion. Je sais pas hein, si on dépasse les 10 euros de la tonne. Je ne suis pas sûr.
Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, les agriculteurs payent pour qu'on vienne entretenir leur bocage. Ils payent l'heure de lamier, ils payent tout ça. Alors, en fait, nous, avec le pacte de la haie, on essaie vraiment de remettre en fait, une dynamique autour du bois énergie et que en fait, le bois ne soit plus un déchet, mais soit vraiment une ressource économique sur la ferme. Et donc, qu'il soit vraiment acheté à l'agriculteur.
Oui, c'est bien aussi le sujet de cette émission. Parmi les freins, il y a peut-être aussi le... comment dirais-je, le fait qu'il n'y ait pas de filière d'achat, enfin, tout simplement, enfin, j'imagine, pour valoriser.
Ouais, tout à fait. Moi, j'aime bien prendre l'image en fait, de la locomotive et du train. En fait. La locomotive, ça va être la chaufferie locale qui est alimentée par du bois local. On appelle ça des plaquettes ou du copeau de bois. Donc, c'est vraiment des petits copeaux de bois bocage. Et en fait, donc, la chaufferie, ça va être la locomotive. Et derrière, il va avoir tous les acteurs du bois énergie. Donc, il va avoir les agriculteurs, il va avoir les élus, il va avoir les entreprises privées qui font une gestion durable ou les sociétés coopératives. Donc, en fait, la locomotive, elle va avancer et elle va emmener derrière, elle, tous les acteurs du bocage.
Et ça n'existe quasiment pas sur le territoire, enfin même en Bretagne, si ?
Ah si, il y a des filières ouais, qui sont développées, fait, voilà, on appelle ça c'est regroupé sous forme de SIC. Y en a un petit peu partout sur la Bretagne, alors beaucoup sur les côtes. Nous, c'est vrai que sur le territoire de l'Aulne et de l'Élorne, on est un petit peu en zone blanche parce qu'il n'y a pas de chaufferies encore qui sont vraiment sorties encore de terre. Et donc, c'est un peu aussi un objectif du pacte de la haie, c'est d'essayer de motiver, d'accompagner les élus, les agriculteurs dans toute cette gestion durable et dans ce train, quoi.
Là, par exemple, nous, à la radio, et le parc et la mairie est chauffée au bois, enfin c'est une chaufferie collective on va dire, ça c'est un peu un embryon en fait de ce qui pourrait être
ça,
fait.
Tout à fait.
C'était pour valoriser j'imagine le bois du parc d'Armorique, non ?
Ouais, alors j'ai pas les détails sur ça, mais oui je crois que c'est un petit réseau de chaleur au fou. Ouais.
Et donc ce qu'on appelle une gestion durable, qu'est-ce que c'est si on reprend tous les éléments ? François ?
Donc une gestion durable, c'est une gestion qui vise avant tout à capitaliser sur son bois pour les agriculteurs. Donc c'est faire des économies sur la gestion du lamier, prélever durablement, donc avoir un prélèvement plutôt qu'une gestion au gabarit. Donc on entend par prélèvement, en fait, on coupe un arbre, quoi, oui. Clairement. Donc il faut que le linéaire soit pas non plus trop prélevé.
On ne coupe pas juste des branches.
Non, on va choisir des arbres.
D'accord.
On va choisir. Il y a différentes formes d'arbres. Il y a les arbres de Auget, donc les grands arbres. Il y a aussi ce qu'on appelle des CP. Donc c'est pour l'image, pour nos auditeurs, c'est le noisetier, l'arbre qui fait la CP naturellement.
Très bien.
Et donc ça, on va venir faire une gestion. Donc on va re-CP. Donc on va couper à ras les CP. On va garder les arbres d'avenir. On va garder quelques grands arbres pour avoir des semenciers ou avoir une régénération aussi de la haie naturellement.
Alors, grands arbres, c'est quoi les essences la plupart du temps?
Du chêne, du châtaignier. Hein. Le chêne, c'est le majoritaire parce qu'en fait, il avait une valeur historique. Donc, souvent, dans le bocage ancien, on va parler du remembrement.
Ben oui,
les haies qui ont été gardées, CDM majoritairement, on avait du chêne. Si vous regardez des haies où il y a de l'érable champêtre, on n'en voit pas tant que ça. Donc c'était du chêne, du hêtre, du frêne, donc des arbres qui avaient une utilité ou une valeur calorifique intéressante pour se chauffer, quoi.
Ça restait quand même pour se chauffer. On ne faisait pas du bois d'œuvre sur les talus, quoi. Non.
On ne sait pas.
Ah ouais, on sait pas, c'est vrai.
Dans l'historique, il faudrait regarder les charpentes, non? Il faudrait regarder les charpentes des maisons. Il y a sûrement des nœuds, il y a sûrement ce genre de choses. La Bretagne n'est pas un territoire de grandes forêts, donc il y avait forcément de l'utilisation de bois bocage dans nos constructions.
Ouais. Dans le pacte de la Haye, c'est pas votre objectif, hein. On est d'accord, de faire du bois d'œuvre, pas trop, quoi.
Ça dépend. En fait, on a des, comme disait Nora, hein, on a beaucoup de linéaires qui sont plus entretenus. Donc, dans ces linéaires-là, il y a des très beaux sujets, que ce soit des très beaux hêtres, des très beaux chênes, donc c'est très ponctuel. L'idée, c'est de quand même continuer à capitaliser dessus. Quand on va broyer ce genre de bois, ça fait un peu de mal au cœur, tant pour nous en tant que techniciens que pour les agriculteurs ou pour les gestionnaires, en fait, dans les SCIC. On essaie de structurer, en fait, la valorisation de ces bois d'œuvre un peu d'exception.
Ouais. Et quand vous faites vos plantations, on vous suit en reportage parfois, enfin, surtout Nora. Qu'est-ce que vous plantez d'ailleurs dans les nouveaux bocages? Ouais.
Ça va être la même chose. Hein. On va planter du chêne, du châtaignier. De l'aulne, on peut mettre aussi du saule, de la bourdaine. En fait, on va vraiment essayer aussi de composer les haies en fonction de ce que l'agriculteur veut faire plus tard avec son bocage. On va pas lui proposer du noisetier s'il en veut pas, par exemple.
Et pourquoi il en voudrait pas, ouais?
C'est une essence qui pousse très vite, en fait.
Ah.
Qui pousse très vite, et en fait, quand on va la couper au lamier, justement, elle va pas être recépée totalement, elle va pas être coupée totalement. Et du coup, en fait, elle va faire plein de petits rejets dans tous les sens. Et du coup, en fait, on a une essence qui prend beaucoup de place et qui est très peu valorisée aussi derrière, quoi.
Bon, alors, pour reprendre avec la gestion durable, on coupe proprement les différentes essences, c'est ça, François? Et puis ensuite,
alors, on fait une reprise de coupe, hyper important, la reprise de coupe.
Mais qu'est-ce donc?
Donc on fait tomber l'arbre et après on vient recouper proprement la souche à la tronçonneuse pour favoriser les bourgeons dormants qui sont au niveau du collet et du coup permettre à l'arbre, en fait, de se régénérer.
Ah oui, donc on n'enlève pas la souche, quoi?
Non.
Enfin, en fait, il est pas vrai. On a coupé l'arbre, enfin, il n'est pas vraiment mort, quoi.
Non. On essaie de le restaurer, donc en fait il va repousser, il va rejeter, et on va le laisser se développer pendant 5 à 7 ans. Et là après on viendra choisir, en fait, pour les arbres de Auget, un des rameaux qui est bien droit, qui est un peu à l'extérieur, qui va avoir de l'avenir et qu'on va valoriser,
qu'on
va garder pour qu'il se redéveloppe et qu'il reforme un beau sujet, quoi.
D'accord, bon, très bien. Donc une fois qu'on a coupé son arbre, qu'est-ce qu'on en fait?
Donc l'arbre est déposé dans le champ. Donc là, il va y avoir un peu de manutention et on a un broyeur qui va venir et qui va passer, en fait, les andins, donc les regroupements de bois.
Les andins, c'est des sortes de tas
c'est ça.
En longueur, de branches, d'arbres, tout ça, ouais.
Exactement, donc il va être passé au broyeur. Et
c'est un broyeur mobile, c'est le broyeur qui se déplace sur l'andin et pas l'inverse, quoi. On s'amuse pas à remplir le broyeur.
Non, c'est un très gros broyeur, soit qui est derrière le tracteur, soit c'est une machine complète, quoi.
Comme une grosse tondeuse à gazon.
Ouais.
Toute proportion gardée.
Je comparerais plutôt à une ensileuse qu'à une tondeuse à gazon, mais c'est le principe. Voilà.
Et donc elle fait quoi, du copeau, du...
Elle fait des plaquettes.
Plaquettes.
Du coup, des plaquettes.
C'est des copeaux, ouais.
Ouais, c'est des copeaux qui font à peu près 4 cm sur 4 cm. Bon, après, il y a différentes tailles qui seront calibrées pour les chaufferies.
Mm-hmm.
Mais du coup, ça passe dedans et derrière, après, c'est livré, donc c'est stocké donc sur une plateforme.
C'est en sachet quand même ou c'est...
Non. C'est des gros tas.
Ah ouais, ok.
C'est très gros tas.
D'accord. Donc la plateforme, il y a des exigences, j'imagine.
Ouais, elle est abritée ou pas forcément. Parce qu'en fait, il faut atteindre un certain taux d'humidité dans le tas.
Ah bon.
Pourquoi de ça mémoire, entre 35 et 40% d'humidité.
Ah ouais, pourquoi?
En fait, le bois, quand on va le couper, il va être chargé à 80% d'eau, c'est ça?
Ouais, il va être très chargé en humidité. En fait, après, on ne peut pas mettre ça dans une chaufferie. Il faut que le bois sèche un petit peu. Et du coup, il va être mis à sécher pendant 3, 4, 5 mois pour garder quand même un petit taux d'humidité. Et après, du coup, c'est envoyé dans les chaufferies du territoire.
Mais il faut qu'il garde un taux d'humidité.
Oui.
Ah ouais. Ah bah c'est comme une... je ne sais plus quoi je compare.
Ouais, si c'est trop sec, ça va brûler trop vite, en fait, voilà, c'est ça. D'accord,
et
je comprends.
Puis, en fait, il y a un risque aussi pour la chaudière. La chaudière, plus il va faire chaud, en fait, c'est comme un four.
Oui.
Si on fait monter la chaleur trop fortement, sans humidité dedans, avec du bois très sec, on a un risque qu'elle flambe, en fait,
ah ouais,
et qu'elle se dégrade.
Bon, et donc ces chaudières, pour avoir une idée, elles ressemblent à... Enfin, c'est quoi la taille de ce type de chaudière?
Ça dépend, hein. Il y a vraiment de toutes sortes. Vraiment, il y a toutes sortes de chaufferies. Il y a des chaufferies, alors sur Brest Métropole notamment, là, ça va être des grosses chaufferies qui vont alimenter des réseaux de chaleur ou des usines un peu plus grosses. Donc là, c'est vraiment des grosses chaufferies qui vont accepter beaucoup de bois différents. Et après, en local, donc ça peut être des petits réseaux de chaleur à l'échelle d'une commune, donc qui va relier par exemple la piscine avec l'école, avec l'EHPAD. Et là, du coup, c'est des plus petits réseaux de chaleur, mais aussi qui vont permettre de chauffer durablement les habitants, quoi.
Et qui acceptent quand même tout type de bois, même les petites.
Alors, ça va être justement, plus la chaufferie est petite, plus la qualité du bois plaquette doit être... précise, en fait.
Ah oui, mais ça peut être un problème pour le stockage. Enfin, justement, il faut...
Alors, c'est pas le stockage qui va poser problème, c'est plus la partie criblage. En fait, quand on broie le bois, on va avoir des grosses plaquettes, donc des plaquettes qui... Enfin, des beaux copeaux. Et on va avoir aussi ce qu'on appelle la fine, donc c'est un petit peu les poussières qui sont issues du broyage. Et donc, c'est ça qu'il faut éviter dans les petites chaufferies pour éviter justement que... Parce que c'est des vis sans fin, hein, c'est des vis sans fin qui montent le copeau jusque dans le four. Et du coup, pour éviter que ça bourre ou que ça se coince, eh ben, en fait, on va cribler, on appelle ça les copeaux de bois, pour garder uniquement les copeaux qui nous intéressent, quoi.
Et cette fine, elle peut être valorisée autrement? Enfin, je ne sais pas, elle transforme en pellet ou je ne sais quoi.
Alors, pas du pellet, non, ça va être plus, par exemple, dans les litières. Il y a des réflexions qui sont en cours sur les litières, en fait, au lieu d'utiliser de la paille, par exemple, sous les vaches, sous les animaux, eh ben, ça va être de mettre ce déchet, cette fine ou en copeaux pour éviter d'utiliser trop de paille, en fait.
Oui, donc, on a, pour avoir un bon système de valorisation du bois bocager, enfin du bois agricole, il faut des machines adaptées, enfin du personnel pour couper correctement les arbres, des machines adaptées, des entreprises qui vont stocker, enfin des lieux de stockage.
Des lieux de stockage, oui, tout à fait.
Et puis une distribution.
Et des chaufferies.
Alors les chaufferies, apparemment, on en a beaucoup, je ne me rends pas compte, ça vaut le coup, sur le territoire.
On en a quelques-unes. Nous, on en a 4 clairement identifiés, en fait, qui ne sont pas aujourd'hui en gestion durable.
Sur le bassin de l'Élorme.
Il y en a quelques-unes qui sont déjà en gestion durable.
Oui, ça veut dire qu'ils commandent leur bois ailleurs, quand ils ne sont pas en gestion durable, c'est ça?
Quand ils ne sont pas en gestion durable, ils ont des contrats, en fait, avec des grosses entreprises qui font de la gestion du bois. Mmh. Donc, une partie peut être en gestion durable, hein, mais pas forcément tout. Et puis, en fait, le bois qui est pris, il y a tout type de bois. Du bois issu du bocage, de la forêt, du bois déchet, donc là, qui est du bois qui vient des déchetteries. Hein.
Oui, il y en a aussi. Ouais.
Voilà, il y a tout un mix dans ce genre de choses. Après, l'intérêt, c'est surtout sur les petites chaudières. Donc, on parlait celle du Fou, où nous, on a celle de Landerneau, avec la piscine. Et là, l'intérêt, c'est qu'en fait, on a un volume de consommation qui permettrait de passer sous les marchés publics et de passer en direct, et en fait, aux élus d'avoir un vrai engagement auprès de leurs agriculteurs, auprès des agriculteurs du territoire, avec une prise 100% de bois géré durablement sur le territoire.
Oui, parce que quand on dit gestion durable, ça veut dire circuit court, mais court comment? Enfin, c'est-à-dire vraiment, on ne sort pas du bassin versant, c'est ça? En fait, on prend tout le bois du bassin versant peut être consommé localement.
Ça dépend du gisement et ça dépend de l'état du bocage. Mmh. Donc nous, dans la deuxième année de notre pacte, on a une étude de gisement qui est prévue. Donc là, on va étudier les haies, étudier leur état. Si on a du passage que de la mie, en fait, on va avoir du mal à valoriser ça. Par contre, si on a des linéaires où on a des beaux sujets qui sont déjà en gestion durable par les agriculteurs, là, il va y avoir un vrai intérêt, quoi.
Ouais, donc ça, vous ne pouvez pas encore le dire pour l'instant.
Non, ouais, c'est un peu tôt.
Et les Pagas, ouais, les Pagas, c'est un territoire un peu plus grand là, quand même. Le bassin versant de les Pagas, ça va poser peut-être un peu problème, non?
Non. Bah en fait, c'est pareil. Hein, on a quelques petites chaufferies sur le territoire, mais alors nous, l'initiative en fait qu'on suit de près, c'est la SCIC Quadcob en fait qui est.
Alors SCIC, je redis que c'est Société Coopérative d'Intérêt Collectif, donc c'est une coopérative mais qui peut compter parmi ses adhérents des communes, des collectivités, c'est ça?
C'est ça, des citoyens, des agriculteurs. Donc là, c'est vraiment l'objectif en fait de Quadcob. Et donc en fait, elle a été créée en 2025. Et l'objectif, en fait, c'est de faire une offre de chaleur de l'arbre jusqu'au radiateur. Donc en fait, ça va être des offres clés en main pour les collectivités. Pour mettre en place en fait des petites chaufferies modulaires, donc en fait on peut mettre plusieurs chaufferies à côté pour faire plus ou moins de puissance de la chaufferie, et du coup c'est d'accompagner les agriculteurs d'acheter leur bois avec une gestion durable, et après du coup c'est ce bois là qui va alimenter les chaufferies du territoire.
Et donc cette SCIC, elle est à quel endroit? Elle est à Carré, c'est ça?
Alors les bureaux sont basés à Carré, ouais, c'est ça.
Et donc elle compte combien de collectivités, enfin de communes qui sont impliquées à peu près
C'est le pays centre-ouest Bretagne. Ouais. Donc c'est tout le pays COB. C'est ça, c'est tout le pays COB.
Et la SCIC, elle a été montée par qui au départ? Par Carré?
Par l'Allée COB, qui a principalement été moteur.
Quelle association locale de gestion de l'énergie, c'est ça
enfin... Tout à fait. Et le pays centre-ouest Bretagne, du coup aussi, quoi.
Et donc, combien il y a d'agriculteurs pour l'instant, d'exploitations
Je ne sais pas, mais je crois qu'ils étaient à plus de 60 ou 70 adhérents, si je ne dis pas de bêtises.
Ah oui.
Après, je pense que... Ouais, je ne sais pas exactement combien ils sont.
Et c'est toujours ouvert, ça peut...
Oui, c'est tout à fait c'est ouvert. Il y a une AG tous les ans. Donc, il y a les collectivités. Hein, il y a la communauté de communes Haute-Cornouaille, il y a Monde Arrêt Communauté, il y a des citoyens, des associations environnementales. Donc c'est vraiment un beau projet. Là, c'est le tout début. Hein, donc la première chaufferie qui va être installée, normalement, c'est celle de Châteauneuf-du-Fou. Donc la prochaine saison de chauffe, là. Du coup, on suit ça de près pour accompagner justement les agriculteurs et faire le lien en fait sur le terrain entre les agriculteurs et cette Quadcob pour permettre en fait une valorisation du bocage.
Donc c'est un peu tôt pour avoir les retours des agriculteurs qui puissent se dire.
Oui, oui, c'est un peu tôt.
C'est
encore,
super. Ouais. Oui, François.
Ouais, c'est tôt, mais à la fois, il faut qu'il soit moteur sur le sujet. Moi, il y a un homme que j'ai rencontré, qui m'a marqué, qui est agriculteur, qui a été élu l'Aubrac, dans le sud-est de la France, qui s'appelle André Valadier, et qui avait une phrase à propos des cycles de qualité, où il disait « La tradition sans modernité est stérile, et la modernité sans tradition est aveugle ». Et je trouve que c'est une très belle phrase sur notre sujet du pacte de la haie, parce qu'en fait, on cherche vraiment l'équilibre entre les deux. En fait, il faut refaire une histoire autour du bocage, réécrire en fait notre gestion sur notre territoire de ce bocage-là pour le restaurer, retrouver tous les bénéfices qu'il nous offre.
Sans retourner à la bougie pour autant, c'est
exactement.
Ça
Mais en fait, il faut aussi garder l'ouverture que chaque agriculteur a sa méthode de gestion. Donc forcément, il faudra faire un juste milieu entre le très mécanisé et le tout manuel. Et c'est aujourd'hui ce que les SCIC proposent, en fait. Elles sont vraiment entre les deux.
Parce qu'en fait, la SCIC, c'est elle qui se charge de couper, par exemple. Elle peut faire ça, quoi.
Moi, je vais prendre l'exemple de la SCIC qui est le plus proche du territoire de l'Erne. Donc, c'est la SCIC Quadbro, où en fait, ils ont un choix. C'est au choix de l'agriculteur. L'agriculteur peut tout faire par la SCIC.
C'est plus cher, forcément.
Bah, du coup, là, il va pas payer.
Ah, oui,
il va
juste
toucher moins d'argent.
Oui, c'est ça. Il touchera quand même un peu d'argent
dans
bois.
Tous les cas.
Ah,
ouais. Le bois est acheté dans tous les cas, c'est ça.
Okay.
C'est ça, l'objectif. Bon. C'est qu'il soit acheté dans tous les cas. Par contre, vu qu'il n'aura rien fait, il ne va pas forcément retoucher. Mm-hmm. Mais le vrai intérêt, c'est forcément qu'il touche un petit bécule sur le sujet, parce qu'il a capitalisé pendant X années sur ces arbres-là.
Est-ce que c'est des prix de marché ou il y a quand même de la subvention derrière
Non, c'est du prix de marché.
Ah ouais.
Donc là, c'est vraiment...
Donc il y a un besoin de bois.
Voilà, c'est ça. Par contre, ce qui implique derrière que les collectivités doivent mettre le juste prix sur le bois qu'elles
achètent.
C'est
ça quand même, oui.
Donc si on achète 70 euros la tonne de plaquettes, l'agriculteur ne va pas toucher l'argent. Par contre, si on l'achète aux alentours de 115-120 euros ou plus, en fait, ça va être intéressant pour tous les acteurs de la filière. Et l'argent qui sera investi par les collectivités retombera sur le territoire parce que ce ne sont que des gens qui vivent et qui travaillent sur nos territoires.
De toute façon, si on croit le rapport du Shift Project sur l'agriculture en Bretagne, le prix du bois ne peut qu'augmenter. Enfin, on aura trop de besoin de bois par rapport à ce qui sera produit. Donc, on est quand même sur une tendance intéressante pour les agriculteurs. Juste, on a 30 secondes à peu près, Nora, pour parler du concours qui incite aussi. Enfin, c'est ça, une opération d'incitation ?
Oui, tout à fait. Donc, on peut parler un peu du concours local d'agroforesterie. Donc, on recommence en fait cette année avec donc Territoire Aulnay-Lorne. On organise
ensemble,
tout à fait. Donc, c'est ouvert à la catégorie gestion. Donc, tout agriculteur qui a un système bocager en place depuis 10 ans, qui a une gestion durable, qui veut parler en fait de sa ferme et de sa gestion durable, peut candidater auprès de l'EPAGA ou du syndicat de l'Aulnay-Lorne. Donc, l'idée, c'est de faire une visite des fermes en fait candidate au mois de juillet. Après, il y aura une remise des prix qui sera faite, alors c'est souvent entre décembre et janvier. Et du coup, le lauréat local du territoire, après, il est invité au Salon de l'agriculture à Paris pour la remise des prix nationale.
Et donc, il faut être sur le territoire d'un des deux bassins de versant.
C'est ça.
On va communiquer la liste des communes.
Okay, très bien.
Bon. Les candidates.
Eh ben, merci beaucoup d'être venus tous les deux nous parler de ce sujet passionnant qu'on suivra de près.
Merci beaucoup.
Et on pourra réécouter. Merci. Au revoir.